Chapitre 6, l'opposition. Nos prédicateurs et nos éducateurs sont les représentants de l'amour de Dieu pour un monde tombé. Ils doivent enseigner la vérité en hommes dont le cœur est plein de tendresse, et par conséquent se comporter à l'égard de ceux qui sont dans l'erreur avec la bonté du Christ. Si ceux en faveur desquels vous travaillez ne saisissent pas immédiatement la vérité, ne les blâmez pas, ne les critiquez pas ou ne les condamnez pas. Souvenez-vous que vous êtes chargé de représenter le Christ qui était doux, bon et aimant. Il faut nous attendre à rencontrer l'incrédulité et l'opposition. La vérité a toujours eu à engager la lutte avec ces éléments. Mais quoique vous deviez faire front à l'opposition la plus décidée, ne blâmez pas ceux qui s'opposent à vous. Ils peuvent penser, comme Saul de Tarse, qu'ils sont au service de Dieu. Aussi devons-nous faire preuve de patience et de douceur. N'ayez pas le sentiment que vous supportez de lourdes épreuves et que vous allez au-devant de luttes sévères, parce que vous enseignez des vérités impopulaires. Pensez à Jésus, et à ce qu'il a souffert pour vous et vous garderez le silence. Même lorsqu'on vous injurie et qu'on vous accuse faussement, ne vous plaignez pas. Qu'aucun murmure ne s'échappe de vos lèvres, qu'aucune pensée de reproche ou de mécontentement ne pénètre dans votre esprit. Allez de l'avant, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu, au jour où il les visitera. Vous devez vous conduire avec douceur envers ceux qui sont dans l'erreur, car n'étiez-vous pas récemment aveuglés par vos péchés? À cause de la patience du Christ envers vous, ne devriez-vous pas être bon et patient à l'égard des autres? Dieu nous a souvent avertis de faire preuve d'une grande bonté envers ceux qui s'opposent à nous, afin que nous n'influencions pas les âmes dans la mauvaise direction. Notre vie doit être cachée avec le Christ en Dieu. Nous devons avoir une connaissance personnelle du Sauveur. Alors seulement nous pourrons être ses vrais représentants sur la terre. Que cette prière soit constamment la nôtre, Seigneur, enseigne-moi à agir comme l'aurait fait Jésus à ma place. Où que nous soyons, nous devons faire briller notre lumière par nos bonnes œuvres, pour la gloire de Dieu. C'est là le grand but de notre vie. Sagesse dans la condamnation de l'erreur. Le Seigneur désire que son peuple suive d'autres méthodes que celles qui consistent à condamner l'erreur, même si cette condamnation est justifiée. Il veut que nous fassions autre chose que d'attaquer nos adversaires en les éloignant ainsi toujours davantage de la vérité. L'œuvre que le Seigneur est venu accomplir dans ce monde ne consistait pas à élever des barrières et à rappeler sans cesse aux gens qu'ils étaient dans l'erreur. Celui qui veut apporter la lumière à ceux qui ont été trompés doit s'approcher d'eux et travailler pour eux avec amour. Il doit devenir le centre d'où rayonne une sainte influence. Lorsqu'on se fait l'avocat de la vérité, il faut traiter les adversaires les plus décidés avec respect et déférence. Certains contradicteurs ne profiteront pas de nos efforts et feront peu de cas de l'invitation que leur adresse l'Évangile. Mais d'autres, même parmi ceux dont nous supposons qu'ils ont dépassé les limites de la miséricorde de Dieu, seront gagnés au Christ. Dans la toute dernière phase de la lutte, peut-être ceux qui n'ont pas rejeté la lumière, mais qui étaient plongés dans les plus profondes ténèbres, seront-ils enfin éclairés parce que c'est dans l'ignorance qu'ils se sont opposés à la vérité. C'est pourquoi considérez chaque homme comme sincère. Ne prononcez pas une parole, ne faites pas un geste qui puisse le confirmer dans son incrédulité. Si quelqu'un cherche à vous entraîner dans un débat sur la politique ou sur d'autres questions du même genre, ne lui cédez pas. C'est l'œuvre du Christ que vous avez à faire avec fermeté et avec force, mais dans la douceur du Christ et avec autant de calme que possible. Que l'homme ne se mette pas en avant, et qu'il n'y ait pas de place pour la propre suffisance. Qu'on puisse voir que Dieu nous a appelés à une mission sacrée. Prêchons la parole, soyons zélés et fervents d'esprit. La portée de notre enseignement serait 10 fois plus grande si nous étions plus attentifs à nos paroles. Des mots qui devraient être une odeur de vie qui donne la vie, peuvent, par l'esprit qui les accompagne, devenir une odeur de mort qui donne la mort. Souvenez-vous que si, par votre esprit et vos paroles, vous fermez la porte même à une seule âme, cette âme se tiendra devant vous au jour du jugement. Si vous vous en référez au témoignage, ne pensez pas qu'il est de votre devoir de presser les gens de reconnaître dès l'abord la valeur que vous leur accordez vous-même. En les lisant, prenez garde d'y mêler vos propres paroles en telle abondance qu'il deviendra impossible pour les auditeurs de distinguer entre la parole que Dieu leur adresse et vos mots à vous. Prenez garde également à ne pas rendre la parole du Seigneur blessante pour les auditeurs. Nous désirons voir des réformes et parce que nous ne les voyons pas s'accomplir comme nous le voudrions, nous laissons tomber avec un mauvais esprit des gouttes de fiel dans notre coupe et ainsi l'amertume s'empare également des autres. Par la faute de nos paroles mal avisées, leur esprit est irrité et ils sont poussés à la rébellion. Chaque sermon que vous prêchez, chaque article que vous écrivez peuvent être empreints de vérité. Mais une seule goutte de fiel en ferait un poison pour vos auditeurs et vos lecteurs, jetant ainsi le discrédit sur tout le reste. D'autres se nourriront de ce poison, car ils aiment les paroles acerbes. Votre exemple sera suivi, et on parlera comme vous parlez. Ainsi le mal se multipliera. Ceux qui enseignent les éternels principes de la vérité ont besoin d'être oints avec l'huile qui découle des deux branches d'olivier. Voir. Nous abonderons ainsi en paroles qui réforment mais n'exaspèrent pas. La vérité doit être dite avec amour. Alors le Seigneur Jésus, par son esprit, donnera la puissance. Car c'est son œuvre. Comment se comporter en face des objections? Le temps et les forces peuvent être mieux employés qu'à s'attarder aux arguties des adversaires qui nous dénigrent et déforment notre pensée. Le temps précieux passé à suivre les sentiers tortueux d'adversaires de mauvaise foi serait mieux utilisé à instruire et à persuader ceux qui meurent faute de connaissances. Ainsi les inventions de Satan occupent les esprits tandis qu'il est des âmes qui réclament avec instance la nourriture au temps convenable. C'est l'affaire de ceux qui se sont entraînés dans la lutte contre la vérité de produire toutes sortes d'objections. Nous n'agissons pas sagement lorsque nous reprenons ces objections, et que nous les faisons connaître à des milliers de personnes qui les auraient ignorées sans nous. La méthode d'enseignement du Christ devrait être la nôtre. Il était clair et simple, il allait droit à son objet et il s'adressait ainsi aux esprits de tous. Ce n'est pas une bonne politique que d'être trop explicite, de dire tout ce qu'il y a à dire sur un certain sujet, alors que quelques arguments emporteraient la conviction, et suffirait à réduire au silence les contradicteurs. Vous pouvez aujourd'hui priver vos adversaires de tout appui et leur fermer complètement la bouche, mais ils reviendront demain vous combattre sur le même terrain. Il en sera ainsi continuellement, car ils n'aiment pas la vérité et ne viendront pas à la lumière, de peur que ne se dissipent les ténèbres de l'erreur qui les entoure. Le ministère du Christ n'a duré que 3 ans, mais une œuvre immense fut accomplie en ce court laps de temps. Dans les derniers jours, une grande œuvre doit également être faite en peu de temps. Pendant que beaucoup de chrétiens se préparent à l'action, des âmes périssent faute de lumière et de connaissance. Si les hommes qui prêchent et défendent la vérité de la Bible entreprennent d'examiner les objections et de montrer leur inconsistance, alors qu'elles émanent d'adversaires malhonnêtes qui transforment en erreur les vérités divines, Satan suscitera suffisamment d'opposants pour leur donner sans cesse de l'occupation, tandis que d'autres branches de l'œuvre resteront en souffrance. Nous devons avoir davantage l'esprit de ceux qui reconstruisaient les murailles de Jérusalem. Nous avons une grande œuvre à faire, et nous ne pouvons l'abandonner. Si Satan peut occuper des hommes à répondre aux objections, les empêchant ainsi d'accomplir leur vraie tâche, il a atteint son but.